Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette rencontre qu'organise la Bibliothèque publique d'information pour le cycle La création à l'œuvre. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Philippe Dian. Philippe Dian, qui a publié depuis le début des années 80 une trentaine de romans et de nouvelles. Depuis ses deux premiers livres, 50 contre 1 et Bleu comme l'enfer, paru aux éditions Bernard Barrault, jusqu'à son tout dernier livre intitulé « Eau », publié à la rentrée 2012 aux éditions Gallimard, un roman qui lui a valu le prix Interallié. C'est l'énorme succès de 37-2 le matin, paru en 1985 et adapté à l'écran par Jean-Jacques Benex, qui a fait de lui un auteur culte pour ses très nombreux lecteurs. Ce succès ne sera d'ailleurs jamais démenti par les livres suivants, que ce soit « Échine », L'an dehors, Vers chez les Blancs, Impardonnable, porté à l'écran par André Téchiné, ou encore Les six saisons de Doggy Bag, qui sont un clin d'œil aux séries télévisées. L'imagination de Philippe Dian ne semble jamais tarir. Il est également traducteur, en particulier d'Harold Pinter. C'est ainsi que sa version nouvelle de la pièce Le Retour a été mise en scène par Luc Bondy au Théâtre de l'Odéon à l'automne dernier. Philippe Dian est aussi parolier. Il écrit des chansons à succès pour Stéphane Escher. Il est clair que le monde de Philippe Dian, c'est la langue. La langue dont le rythme et le son l'obsèdent et dont il s'emploie à travailler le style pour l'ajuster au plus près au monde dans lequel on vit. Cette recherche est nourrie de son admiration pour les écrivains américains tels que Carver, Salinger ou Brautigan. Son écriture et son phrasé frappent juste pour dire avec une certaine noirceur mais non sans ironie un monde chaotique en désarroi. Il explore en particulier le couple et la famille avec ses violences, ses failles et ses non-dits. Mais je crois qu'il est temps de l'écouter maintenant nous parler des ressorts de cette création foisonnante. Je donne la parole à Jean-Baptiste Arand qui est son interlocuteur pour cette rencontre. Jean-Baptiste Arand est critique littéraire au magazine littéraire et écrivain. Il vient de publier chez Grasset un roman inspiré d'un fait divers tragique intitulé « Bordeaux-Vintimille ». Je vous retrouve tout à l'heure pour les questions.
Merci beaucoup et bonsoir. Et voilà, mon travail est quasiment fait parce que les présentations sont faites. Philippe et moi, on se connaît depuis longtemps. On va pas faire le coup de se vous voyez comme à la radio. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était à Biarritz, au moment de la sortie de L'An dehors, qui était le dernier livre que tu as publié chez Bernard Barrault.
On s'était pas vu avant.
Non, on s'était pas vu.
Je me souviens que tu étais le premier journaliste à avoir fait le déplacement. Il n'a pas eu avant, je crois.
Non. Je ne sais pas si j'étais le premier à prendre le train, mais j'ai pris le train.
Je ne crois pas.
et donc, j'ai gardé en réserve depuis, ça fait 22 ans, 24 ans, un truc comme ça, une phrase qui doit être l'avant-dernière de L'An dehors, que je te cite souvent, mais qui se justifie ici, parce que ta présence m'étonne. Dans cette phrase, il y avait ça. Évite les endroits où l'on parle des livres. N'écoute personne. Si quelqu'un se penche sur ton épaule, bondis et frappe-le au visage. Ne tiens pas de discours sur ton travail. Il n'y a rien à en dire. Ne te demande pas pourquoi ni pour qui tu écris, mais pense que chacune de tes phrases pourrait être la dernière. Alors, qu'est-ce que tu fais là?
Quand j'ai écrit ça, j'étais jeune, donc je me rendais pas compte non plus. Non, mais c'est vrai que je crois que c'est Melville qui disait « Soyez toujours fidèles aux rêves de votre jeunesse ». Et ce genre de phrase, c'est encore... Alors peut-être on va pas me croire, mais c'est vrai que je fonctionne encore en appliquant ces règles. Le truc de la dernière phrase, c'est vrai. J'ai toujours pensé que j'allais... C'est pas du tout une histoire d'être romantique ni rien, mais j'ai toujours pensé que j'allais mourir en écrivant. Et d'une manière très très précise, c'est-à-dire que je voyais ma tête tomber sur le bureau et je me dis, mais quelqu'un va venir par-dessus mon épaule voir ce que je faisais là. Et il va regarder la dernière phrase que j'ai écrite. Et si cette dernière phrase, c'est n'importe quoi, si je l'ai écrite en pensant que je reviendrai après pour la corriger, ce que je fais pas, Donc je me dis, la dernière phrase, il faut que je pense que c'est peut-être la dernière que je vais écrire. Donc j'essaye de la faire, de l'écrire le mieux possible. Voilà. Donc tout ça, et qu'est-ce que je fais là ? Je ne sais pas si on va parler des livres d'ailleurs, j'en sais rien, c'est ça le problème. Ça vient tout doucement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Jean-Baptiste. Cette idée que d'un seul coup, je voyage avec des écrivains, je parle avec des écrivains, je fais des rencontres comme ça. Et au début, je voulais surtout pas. Et par exemple, je suis toujours très très réticent à aller au Salon du Livre, parce que je trouve que là, on parle beaucoup trop de livres. Donc, je veux pas y aller. Mais toutes ces petites choses de rencontrer des écrivains, de les parler dans des conditions et des situations un peu particulières, c'est nouveau, c'est agréable. Et comme maintenant je commence à plus être le jeune écrivain dont on parle toujours, je suis maintenant un vieil écrivain sans enfants, et sans les enfants, c'est plus facile de voyager et de bouger comme ça. Donc oui, je veux bien parler des livres, oui, je veux bien... mais je n'accepte pas, par exemple, qu'on vienne me dire... alors je frappe personne, parce qu'en général, les gens n'arrivent pas à arriver jusque dans mon dos quand j'écris. Mais je pense que s'ils venaient... J'accepterai pas, mais d'une manière, c'est parce que j'ai toujours été très, j'ai toujours adoré ça, la littérature. Et je me dis, s'il y a des gens qui sont des écrivains et qui assument le fait d'être écrivains, qu'ils aillent au moins jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils écoutent éventuellement le correcteur ou l'éditeur qui vient derrière et qui vous dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et, toute petite anecdote, je me souviens que quand j'ai commencé à envoyer mon premier recueil de nouvelles, qui était 50 contre 1, la première personne qui m'a répondu, c'est Raphaël Sorin. Et Raphaël Sorin, pour moi, c'était la personne qui avait édité Selby, qui allait éditer Bukowski, tout ça, donc c'était pas rien. Et donc Raphaël Sorin m'appelle et me dit, ça m'intéresse votre truc. Alors j'ai dit, c'est génial que ça vous intéresse. Et il me dit, oui, il faut retravailler un petit peu, il faut qu'on le retravaille. Et ça m'a tellement surpris, j'ai presque éclaté de rire. J'ai dit, mais vous plaisantez ou quoi ? Et j'ai raccroché. Donc, il ne faut jamais faire ça. Donc, si aujourd'hui, j'ai un conseil à donner aux jeunes écrivains, on ne raccroche pas au nez de Raphaël Sorin. On écoute ce qu'il a à dire. Donc, mais c'était ça, cette espèce de fierté de travailler quelque chose que je trouvais un truc assez incroyable, qui était la langue. Et donc... oui, toutes tes propositions que je fais à propos du travail d'écrivain, oui, n'écoute pas les autres, ne va pas dans les endroits où on parle des livres, tout ça, oui, je le croyais vraiment, je le crois encore aujourd'hui, mais je me suis assagi un petit peu.
Dans cette attitude-là, il y avait quand même une cohérence, c'est que tu disais également, à l'époque, tu publiais donc chez Bernard Barrault, et tu disais, moi, je ne veux pas aller dans une grande maison où il faudrait rencontrer 18 personnes qui vont se mêler de mon travail, qui vont venir me dire il faut changer le titre, il faut faire ça. Et pourtant, l'année d'après, tu es allé dans une grande maison.
Bah, c'est une histoire que j'ai pas trop envie de raconter ça, parce que c'est assez triste pour moi, mais j'ai quitté Bernard Barrault pour des raisons que je vais pas évoquer ici, mais je pouvais plus rester dans cette maison, et pas du tout pour des raisons de taille. Au contraire, j'étais très content, moi, d'être dans une petite maison et ça fonctionnait très bien, tout ça. Donc, il s'est trouvé qu'à un moment, on n'était plus d'accord sur certaines choses et qu'à ce moment-là, Antoine Gallimard avait déjà demandé à ce personnage que j'ai pas fait entrer dans le domaine de la littérature en France, mais que j'ai quand même un petit peu... on a dû être les premiers à avoir des agents. Et donc, amener un agent dans l'histoire, ça a fait qu'en fait, c'est lui... qui a parlé avec Antoine Gallimard, et quand j'ai su qu'Antoine Gallimard était intéressé par me publier, j'ai dit oui. Mais donc je me suis pas mis sur la place de Paris en disant qui m'offre le plus. C'était simplement les choses étaient déjà un petit peu posées. Donc oui, mais ça veut rien dire en fait. Une petite maison, c'est tout dépend du nombre de personnes qui travaillent sur votre texte. Là, par exemple, chez Gallimard, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Simonet, avec lequel j'envoie mon manuscrit chez Gallimard, j'envoie à Antoine Gallimard mon manuscrit, mais en même temps, le travail d'écriture vraiment, enfin, pas d'écriture, mais de regarder si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas d'incohérence, s'il n'y a pas de faiblesse dans le texte. Donc, il y a quelqu'un qui me donne son avis, et c'est quelqu'un que j'estime et que, en même temps, j'aime bien, qui est Thomas Simonet. Et donc, ça reste une petite maison pour moi, Gallimard. Je vois pas 500 personnes. J'ai une attachée de presse, un éditeur et Thomas Simonet, c'est tout. Donc, c'est une petite maison pour moi. Mais en même temps, les petites maisons, je trouve qu'elles se comportent pas avec les écrivains d'une manière toujours très... au niveau des droits, au niveau des relevés de non, je trouve que dans les grandes maisons, au moins, moi, maintenant, tous les, je sais plus quelle date du mois, j'ai mes relevés, je sais ce que, j'ai des éditeurs, par exemple, qui me disaient, quand je disais, mais, j'ai besoin d'argent, ils disaient, combien tu veux? Je disais, tu sais pas combien je veux, c'est combien tu me dois, et on me répondait, mais Beckett demandait pas ses droits d'auteur. Je disais, oui, mais moi je suis pas Beckett, moi j'ai besoin de vivre, j'ai une femme, j'ai des enfants, je voyage, donc j'ai besoin de mes droits d'auteur. Donc c'est ça, les petites maisons, grandes maisons, non, Gallimard pour moi c'est une petite maison. Enfin, c'est une énorme maison, mais en même temps c'est 3 ou 4 personnes, c'est tout.
Jean Beckett, il demandait pas les droits d'auteur de ses livres, mais il vivait quand même assez grassement des places de théâtre qu'il acceptait volontiers de percevoir. Il y a autre chose qui a changé pour en revenir à ce qui se passait il y a 20 ans, c'est que tu théorisais cette façon d'écrire à la machine. Tu écrivais à la machine. Donc là, quand tu tomberas raide mort sur le clavier, tu te feras moins de mal, probablement. Voilà. Et tu avais ce fétichisme de ne jamais revenir en arrière, ce que la machine n'autorisait pas. Tu tournais tes phrases en bouche de façon à ne pas faire ces ratures-là que tu t'autorisais pas, et tu écrivais de façon systématique. Tu étais un écrivain systématique. Je crois que me souvenir que c'était 4400 signes par page. Il y avait le tas
5000 quand ça se passait bien.
Ouais. Il y avait le tas des pages blanches. On les passait par la machine. Elles allaient au tas des pages écrites. Et même, tu t'arrangeais pour finir au milieu d'une phrase pour être sûr que le lendemain, tu savais où reprendre le fil. Et puis, est arrivé l'ordinateur. Ça change? Ça change l'écriture, la façon d'écrire? On a droit aux ratures.
Ouais, enfin moi ça m'a amusé, j'ai fait un livre où ça m'a vraiment amusé, c'était Échine. Dans Échine ça m'a amusé parce que c'était toujours agréable de... Non, parce que ce qu'il faut expliquer c'est que cette idée de pas raturer ou de pas revenir sur la phrase, c'est-à-dire de la tourner vraiment plusieurs fois dans sa tête avant de l'écrire, ça venait d'un truc tout bête. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, il fallait mettre un carbone. Donc on mettait une page, un carbone, tout ça, donc... Et je savais pas taper, donc je tapais avec 2 doigts, peut-être 3 quand j'étais en forme, mais je tapais très très lentement. Et quand j'arrivais à la fin de la page, si j'avais pas assez réfléchi à ma phrase et que au dernier moment elle me plaisait plus, il fallait que je recommence tout, et le carbone et les 2 pages, tout ça. Donc à un moment je me suis dit, c'est plus possible, ça m'agace trop. Donc l'idée c'est, avant d'écrire, tu vas vraiment réfléchir. Et j'ai enlevé je faisais plus d'interlignes et je faisais plus de marge. Donc, il n'y avait plus de possibilité de correction. Mais ça m'obligeait à faire ce que font tous les écrivains, mais sur un laps de temps plus ou moins long. À savoir que, par exemple, je sais pas, John Irving, quand il écrit ses bouquins, pendant un mois ou deux, il fait un premier jet. Et après, pendant un an ou deux, il est là en train de corriger. C'est une méthode comme une autre. Hein. La mienne n'est pas meilleure que la sienne. On a tous plus ou moins mais moi, l'idée, c'était, je ne corrige pas, enfin, ou plutôt je fais toutes les corrections avant, et je veux que le soir, quand je mets ma feuille sur le tas de gauche, j'ai pas besoin de revenir dessus. Parce que, en tant qu'écrivain, j'ai envie de m'appuyer sur quelque chose de solide quand je démarre un roman. Si tout ce que j'ai fait, j'en suis à la moitié ou à un tiers, c'est comme un peu des trucs mouvants, on n'est pas bien, je suis pas bien. Donc, j'ai besoin de savoir que le tas qui est là, là, je peux m'appuyer dessus, il est fait, et je vais pas revenir dessus. Donc tout ça, c'est un peu une espèce de cuisine un peu idiote, mais ça a quand même... ça, dans ma manière d'écrire, ça a certainement influé, de la même manière qu'à un moment, oui, l'ordinateur m'a permis justement de passer au-delà de ce problème que j'avais. Mais ça a duré, ça a même pas duré un roman, parce qu'après, une fois qu'on s'est bien amusé, ben on se rend compte que les choses sérieuses commencent. Donc je me suis un peu amusé avec ça.
Et tu as fait aussi une sorte de fétichisme que tu as toujours de la première phrase. Que celle-là, il fallait la tourner encore plus longtemps dans la bouche. Et tu es allé même jusqu'à dire qu'elle contenait tout le livre. Tu as même, je crois, dans une conférence à Sydney, pour faire l'épée dedans, raconté l'histoire du mot qui dépasse par terre et qui se fait tirer dessus pour avoir toute l'histoire. C'est du baratin ou c'est vrai
du, le truc du quoi
à Sydney, tu oui, as fait oui, une oui, conférence oui. à Sydney. Tu as dit que la première phrase, c'était comme un fil qui dépassait.
Ah, non, j'ai pas
terre.
Entendu fil. Oui, effectivement. Oui, ouais. Non, c'était un.
Eh bien, raconte ça.
Oui, je sais pas si c'est vrai, mais quand je travaille, j'ai toujours. J'ai l'impression que le roman existe et que mon seul travail, c'est de le retrouver, de le redécouvrir. Et un petit peu, l'image que j'avais, c'était si vous vous promenez et que vous voyez un petit bout de fil qui dépasse, si vous êtes un peu. Si vous le faites un peu avec précaution, avec tact et un tout petit poil d'élégance, peut-être que vous allez réussir à tirer toute la bobine et à rembobiner tout. Donc vous avez le roman, il existe, il est là. Mais on va en parler, mais c'est aussi parce que l'histoire, c'est quelque chose qui m'intéresse que très, très moyennement. C'est pas pour ça que j'écris, c'est pas pour raconter des histoires. Sinon je serais un journaliste, ou je serais un historien, ou je serais un médecin, ou un philosophe. Moi, je suis rien de tout ça.
Ou un romancier.
Non, le romancier, c'est spécial. Mmh. Il a pas besoin de raconter des trucs. L'histoire, c'est pas la plus importante dans le roman. Si les romans, les choses qui me touchent et qui me font réfléchir sur la vie et tout ça, c'est des choses qui viennent par la langue. C'est pas des choses qui me viennent par les idées. Je veux dire, les idées, tout le monde sait ici. Céline disait, si vous voulez des idées, si vous voulez des histoires, vous avez qu'à acheter les journaux. Il y en a plein dans les journaux. Donc c'est évident que le travail de l'écrivain, c'est pas raconter des histoires. Alors la chance, c'est un petit peu quand, oui, effectivement, c'est très compliqué déjà d'écrire un roman qui ne devient pas une histoire. Il y a forcément une histoire, même si c'est une non-histoire, mais il y a quelque chose. Donc je me suis toujours, j'ai jamais eu d'angoisse non plus d'être au milieu du quai en me disant là, qu'est-ce que je fais, où je vais, parce que j'ai toujours pensé que c'était un petit peu, l'histoire, c'est un peu comme c'est un truc très liquide, l'histoire. C'est-à-dire que vous ouvrez un robinet, quelque chose qui se met à couler, et vous savez que l'élément liquide trouve toujours les places les plus basses pour avancer comme ça. Donc l'histoire, elle avance forcément quelque part. Et si vous n'avez pas cette angoisse-là, et si l'histoire... Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'impression que depuis Shakespeare, il n'y a plus tellement de variations possibles. On les connaît, toutes ces choses qui font qu'on vit les uns avec les autres. On sait comment ça fonctionne. C'est toujours les mêmes choses. Donc si on part du principe que on va pas révolutionner toute la fiction en inventant des choses vraiment nouvelles, qu'est-ce qui reste ? Eh ben il reste la seule chose intéressante, il reste la langue. Enfin, ça on va peut-être en parler mais
et tu as conscience que beaucoup de tes lecteurs achètent tes livres et les lisent avec beaucoup de bonheur parce
pour
qu'elles racontent des histoires ?
Oui, j'en ai conscience mais en même temps, c'est pas mon problème, ça m'est égal si on me laisse faire ce que je veux. J'ai toujours pensé que c'était aussi comme en musique, imaginez que je suis, je sais pas, je joue du jazz et puis d'un seul coup tous les gens autour de moi se mettent à écouter, je sais pas, du rock and roll ou un truc comme ça, et on vient gentiment me dire, ah, mais tu sais ce que tu fais, ça nous intéresse plus, on n'écoute plus ça. Et moi j'ai envie de leur dire, mais attendez, je veux bien vous faire quelque chose qui ressemble à ce que vous aimez, mais laissez-moi continuer à faire ça comme je l'entends. Donc c'est un peu ça aussi l'idée, c'est de se dire si ce genre d'histoire ça vous amuse. Et encore une fois, c'est les Américains sont très, ils sont assez malins à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais écarté de la belle langue et des choses qui étaient culturellement très élevées. Ils n'ont jamais écarté l'entertainment, cette idée de distraire en même temps. J'ai jamais pensé que c'était vulgaire, moi, de distraire, et j'ai au contraire pensé que distraire les gens, ça les met dans un état d'ouverture et d'apaisement qui fait que vous pouvez faire quelque chose en profondeur. Si vous êtes trop comme ça, ça marche pas souvent. Donc oui, trouvons des histoires qui sont, voilà. Par exemple, je trouve pas que la télé ce soit spécialement vulgaire, même si ce qu'on voit, c'est la plupart du temps des choses complètement inintéressantes. Mais c'est aussi agréable de penser que la littérature, elle peut aller vers ces choses qui sont un peu plus. Parce que, je sais pas, moi j'ai une confiance un peu absolue dans la littérature, donc j'ai pas peur de ça. Et au contraire, je trouve qu'aller vers des choses un peu plus triviales, un peu plus entertainment, moi je trouve ça bien, il faut faire ça. Il faut faire ça dans la mesure où, si on fait pas ça, je pense qu'il y a des gros gros problèmes en ce moment dans les librairies. Il y a de moins en moins de livres qui se vendent. Tout le monde, et là, je commence justement, maintenant que j'ai plus mes enfants, à voyager un petit peu, à faire les grandes librairies en France pour voir un peu comment ça se passe. Ben, ça se passe pas terrible, hein. Donc, si on fait rien, si on reste dans nos, figé sur nos positions, on ne veut surtout pas, raconter des histoires qui sont des histoires un peu divertissantes, ben, ça va pas très bien se passer. Donc il faut certainement des écrivains. Là, je rigole un peu entre moi parce que je dois faire un truc sur Marguerite Duras et je relis tout Duras et je me dis heureusement qu'il n'y a pas que du Marguerite Duras, même si moi je trouve comme écrivain que c'est une femme qui a fait un travail incroyable. Mais il peut pas y avoir que ça comme littérature. Donc c'est plusieurs littératures qui font qu'à un moment la littérature continue à vivre. Mais moi je suis plutôt donc du côté de oui c'est ça raconter des Je raconte des histoires qui m'amusent en même temps. Ça m'amuse, moi, quand il y a des morts. Ça m'amuse quand il y a des gens enfermés dans les coffres. J'aime bien ce genre de choses. Mais on peut le faire bien. On peut le. C'est pas le thème. C'est pas l'histoire qui va donner. Enfin, à mon avis, c'est pas elle qui va donner. C'est pas elle qui va perdurer. C'est pas elle qui. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous attendez. Si vous attendez des histoires qu'elle vous d'un seul coup raconte comment il faut vivre, c'est... Il vaut mieux lire des trucs. Il y a des choses plus efficaces que les romans à lire, si vous voulez simplement avoir une espèce de vision de la vie que éventuellement pourrait vous donner un écrivain qui a l'air de vous donner les clés. Mais si vous croyez pas ça, intéressez-vous à la langue plutôt. Enfin, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais je pense que c'est ça qui est. Il y a que là que les écrivains ils vous touchent vraiment, quoi. Je suis en train de parler.
Non, mais t'es venu exprès. Et je voudrais préciser, rassurer tout le monde, ça fait deux fois que Philippe dit depuis que j'ai plus mes enfants, ses enfants vont bien. Hein. Ils sont juste grands et ils sont partis de la maison.
À charge.
Et quand tu parles de divertissement, tu as écrit aussi cette série Doggy Bag que tu as présentée comme un parallèle aux séries télévisées en littérature. Comme si c'était la partie de ton œuvre la moins noble, et en tout cas celle où tu acceptes enfin que l'histoire prenne le dessus, pas enfin, parce que au début c'était pas comme ça.
Est-ce que tu fais une vraie différence de style
entre les deux?
C'est pas moi qui dis que c'est pas moi qui dis que c'est moins noble. Hein.
Non, c'est moi.
Ah bon, moi je trouve pas que c'est moins noble, c'est simple.
Comme si c'était.
Non, mais c'est parce que tout le monde sait ici que depuis un moment on commence à voir ces séries qui viennent en. Pour la plus grande part des États-Unis, alors maintenant ça commence un peu à aller un petit peu dans d'autres endroits, mais les très très bonnes séries qu'on a vues apparaître, et je pense aux Sopranos, ou à Six Feet Under, ou à Breaking Bad, ou tous ces trucs-là. Moi, comme écrivain, j'ai eu peur un peu parce que je me suis dit, mais attends, si ces gens-là arrivent à bien écrire déjà, parce que je trouve que des fois il y a des scénarios, c'est assez incroyable, scénario des Sopranos, pour embêter les gens qui sont bien installé comme grand défenseur de la littérature, je disais que dans les Sopranos, il y avait du Beckett, il y avait des passages des Sopranos et quand je dis ça, ça fait pas du mal à Beckett, hein. Ça fait du mal à personne. Simplement, c'est vrai. Je trouve que c'est des gens qui d'un seul coup se sont mis à bien écrire les scénarios et en même temps à bien les filmer. C'est ça qui est terrible. D'un seul coup, des gens commençaient à réfléchir à ce qu'ils mettaient dans le cadre. Et quand c'est pour des séries et pour la télé, c'est rare. Nous en France, peut-être ils commencent tout doucement. Vraiment, quand je dis tout doucement, c'est tout doucement, hein, à aller vers quelque chose de plus intéressant au niveau de l'écriture et de la manière de filmer. Mais c'est encore très très loin par rapport aux séries dont je vous parlais là. Et donc j'ai eu peur en tant qu'écrivain. Je me suis dit mais à ce moment-là, on va servir à quoi nous les écrivains? On va déjà que ça va mal, on va complètement disparaître. Donc si le public et demandeur de ce genre de choses, peut-être qu'on peut leur donner au public ce genre d'histoire, qu'encore une fois, je trouve pas du tout moins intéressante qu'une autre. Elle est peut-être plus drôle et plus divertissante, mais si le public veut ça, ne nous braquons pas en disant non, pas du tout, jamais vous ne lirez ça. Mais non, il faut essayer, pourquoi pas écrire ce genre d'histoire, ça vous empêche pas d'être... je parle pas pour moi, mais... Ça vous empêche pas d'être un très très bon écrivain si vous le faites bien. La langue, elle a rien à voir avec le thème. Donc je me suis dit voilà, on va essayer. Si on n'a pas peur, si on pense que la littérature elle a encore un petit peu de sang dans les veines, on va essayer de se mettre sur le même terrain. Si le cinéma, si le monde de l'image permet certaines choses, le monde du signe, lui, en permet d'autres et pourquoi pas, on va essayer de les comparer. Et moi, je pensais que d'autres écrivains allaient parce que je vais pas en écrire une autre, parce que c'est quand même pas mal de travail. Donc il fallait en faire une, je l'ai faite. Et je pensais que peut-être d'autres écrivains, j'imagine ce que ferait Houellebecq ou ce que ferait Régis Geoffrey ou des gens comme ça, écrire une série, ça serait génial. Mais bon, ça a pas vraiment fonctionné. Mais non, aller vers les choses, ne pas avoir peur, c'est ça, pas avoir peur de. On se salit pas en allant. C'est pas parce qu'on se baisse qu'on se salit. Et quand je dis on se baisse pas. Mais c'est vrai que la télévision fait peur. La télévision, dans le monde de la culture, elle fait peur parce qu'on pense que c'est quelque chose de vulgaire. Mais en même temps, tout le monde regarde. Donc il faut, si on fait rien, pas laisser ça toujours aux mêmes personnes. Mais c'était une tentative, oui.
C'est une tentative, tu en parles comme si c'était des séries qu'on a vues à la télévision. Mais en fait, ce sont des livres que tu as faits. Et pourtant, oui, oui. Quand tu t'es mis devant ta table de travail pour faire ces 6 saisons, tu avais un autre état d'esprit que quand tu te mets devant ta table pour faire par exemple, pour parler du dernier. Toi, tu savais que tu faisais quelque chose de différent, mais en quoi était-ce différent ?
Je savais déjà que j'allais traiter une histoire d'une manière un peu particulière, parce que les séries, ça a pas révolutionné la fiction, mais ça l'a un peu bougé quand même. Le fait de travailler sur plusieurs centres en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme dans cette littérature du 19e, qui était une très belle littérature aussi, mais où il fallait la mise en place. C'est-à-dire que Guerre et Paix, tout ça, on mettait 100 pages avant d'installer bien les choses, et après on démarrait. Je pense qu'aujourd'hui, l'esprit, entre guillemets, si jamais il existe un esprit, l'esprit du public ne fonctionne plus comme ça. Avant, il fallait qu'on vous amène, qu'on vous explique un peu tout, qu'on mette tout en place, sinon vous n'alliez pas jusque dans le cœur de l'histoire. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on vous propose pendant 2 ou 3 épisodes simplement la présentation des personnages, on va plus au bout. Donc il y avait une manière de travailler sur la fiction d'une manière différente. L'idée de travailler sur plusieurs centres, je trouve que c'est amusant, parce qu'en fait ça enlève peut-être ce qu'il y a même des fois dans la grande littérature, ces moments d'apaisement ou de rythme un peu différent. Donc là ça va plutôt très très vite, parce que c'est pas forcément que l'histoire va vite, c'est que dès qu'il y a une baisse de tension ou de régime sur un centre, on passe à l'autre, et donc on a toujours l'impression que ça va vite et qu'il se passe des choses et que c'est plutôt drôle et que je pense que moi j'arrive autant à réfléchir sur ce que je regarde quand je regarde une série que quand je regarde Marguerite Duras avec le camion, par exemple. Je suis même peut-être un peu plus amusé quand je regarde une série que quand je regarde le camion. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut aller vers les choses, il faut aller voir jusqu'où on peut leur... De la même manière qu'à un moment, je voulais voir ce qu'on pouvait faire avec la pornographie, par exemple. Donc j'ai écrit un livre où il y avait de la pornographie dedans. Et en même temps, c'était pas pour rien. J'ai fait ça parce que je me disais, voilà, c'est en réaction, par exemple, avec tout ce qu'on appelle l'érotisme, par exemple, que j'ai toujours trouvé très très emmerdant et très cette idée qu'on est tout le temps en train de pas dire les choses, mais de tourner autour pour dire les choses. Et en même temps, ça supposait quelque chose qui me plaisait pas du tout. C'était une espèce de complicité avec le lecteur, parce que ça veut dire que c'est presque de l'ordre du clin d'œil, l'érotisme, c'est presque dire, tu comprends ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure en tournant autour, sans le dire. Et ça, cette complicité-là, je trouve que l'écrivain, l'auteur, n'a pas à l'avoir avec son lecteur. Donc je trouvais que la pornographie, elle évacuait ça. Et ça m'intéressait, donc je me dis, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'écrire un roman avec beaucoup de pornographie dedans, est-ce que d'un seul coup, ça vous met dans le rayon du bas de la littérature ? Ben non, je trouvais pas. Donc, mais tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc, et pourquoi j'écris encore aujourd'hui ? Parce qu'il y a plein de choses à essayer. Il y a plein de. Je suis encore émerveillé par ce que c'est qu'écrire un livre et même pas un livre. Mais le soir, quand j'ai fini d'écrire ma page. Je devrais pas le dire, parce que vous allez dire, mais il est fou, mais je suis assez content, je veux dire. Non, parce que j'ai travaillé, j'ai donné le meilleur de moi-même, donc ça veut pas dire non plus que c'est mieux que les autres, mais c'est ce que moi je peux donner de mieux. Mais je le fais vraiment, c'est sincère, c'est pas, oui, je l'ai fait comme ça, non, c'est revenir à ces propositions que je faisais là, à savoir, pense toujours que ta dernière phrase, c'est la dernière.
Et tu le pensais aussi pour Doggy Bug?
Oui, non, mais oui.
Autant.
Oui, parce que c'est la phrase. Vous savez, quand on écrit, c'est un peu. Enfin, moi, l'impression que ça me donne, c'est un peu comme quand on tricote. Enfin, je tricote pas, mais j'imagine que quand on tricote, on regarde le dernier rang. On est sur le dernier rang. Et on fait attention qu'il n'y ait pas des mailles qui soient trop serrées ou trop détendues. Mais ce qu'on peut peut-être oublier, c'est qu'est-ce qu'on est en train de tricoter. Donc on est là, on fait des rangs, puis d'un seul coup, on dit, ah là là, c'est une écharpe ou une chaussette, ou je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est. Et Doggy Bug, ça se passait de la même manière. Je voyais pas, j'étais pas tout le temps en train de me dire, j'écris une série. À un moment, je me retrouvais simplement sur un petit bout de dialogue, sur une réflexion, sur une vision, sur quelque chose, sur un rythme, sur. J'arrivais tout le temps à trouver un intérêt de rester assis, alors que j'ai une famille, alors que on n'est pas tout le temps dans un ciel gris sous la pluie et que des fois on a envie de sortir. Donc il y avait toujours j'avais pas envie de me lever en même temps, même si c'était pénible.
Ça fait quelques années que tu détricotes cette façon d'écrire en disant. Je me souviens quand tu as commencé à faire sérieusement des chansons pour Stéphane Escher, tu avais dit moi j'aime bien les chansons parce qu'il n'y a pas d'histoire. On n'est pas obligé de qu'il y ait une histoire et au fond c'est pas l'histoire qui m'intéresse. Tu viens de redire tout ça et moi je ne te crois pas.
Tu ne crois pas ?
Non, je pense que d'abord. Je me souviens,
obligé,
par exemple.
Tu es obligé de me croire. Tu sais pourquoi tu es obligé de me croire?
Non, mais tu.
Parce que, par exemple, quand j'écris haut. Et ça, c'est vrai. Enfin, nous écoutez pas, parce que là, c'est une histoire entre nous, là. Quand je commence ce livre, par exemple, le dernier, la première phrase, je sais pas. Déjà, je sais pas que c'est une femme qui parle. Et je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc, ça prouve bien que quelque part, c'est pas l'histoire qui me. D'un seul coup, je m'assois pas en disant, ah, je vais écrire sur, je sais pas, quand j'écris Impardonnable, je m'assois pas en disant, je vais écrire sur le pardon, sur le deuil impossible. Je sais pas de tout ce que.
Je crois que dès la sixième ligne, il y a un participe passé au féminin. Hein.
C'est la deuxième ligne seulement, pas ouais, la première.
Ouais. Au début, non, pas
ça.
Pas au début.
Mais non, tu sais d'où ça vient. Enfin, ça vient de, que dans la première phrase, c'est une femme qui dit à qu'elle s'est éraflé. Enfin, c'est une femme. Quelqu'un dit, je suis tombé, je me suis éraflé la joue. Et simplement en écrivant ça, je me dis mais c'est pas un homme qui parle parce que je pensais que si un homme s'il était arrivé la même chose, dirait je sais pas, je me suis blessé ou je me suis dirait pas éraflé. Déjà j'ai senti que il y avait un côté comme ça, oui, de légèreté, de choses qui étaient, enfin, je sais pas. Et je me suis dit mais donc oui c'est une femme qui parle. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est par terre là. Elle s'est pris les pieds dans le tapis. Alors par exemple il y a Paula Fox, qui est un écrivain américain que j'aime beaucoup, avait écrit un livre où tout démarrait parce que la femme se faisait griffer par son chat. Et c'était toute l'histoire des boulettes, cette toute petite chose insignifiante. Et là, cette idée qu'il y a une femme par terre et qu'elle est tombée, d'un seul coup, c'est devenu parce qu'elle a été violée, qu'elle a subi. Alors donc, évidemment, l'intérêt et l'envie que j'ai, c'est surtout pas de décrire un viol, parce que déjà, je suis très très mal placé en tant qu'homme pour parler de ce que peut ressentir une femme qui a été violée. Donc, je passe après. C'est-à-dire que le livre commence, c'est fini. Ça, on passe à autre chose. C'est quelqu'un qui se relève, qui était par terre et qui se relève. Et là, d'un seul coup, ça commence à m'intéresser. Mais j'ai pas envie d'écrire sur le viol. Je sais même pas de quoi je vais parler. Donc, ça vient tout seul et cette espèce de confiance dans cette confiance qu'il y a forcément l'histoire au bout si je tire vraiment tout doucement le filet. Et je suis curieux, je vais aller voir ce qu'il y a au bout là-bas. Je sais qu'il faut que je fasse attention parce que un livre, c'est un peu comme une jungle. Vous rentrez dedans, l'idée, ça va être d'en sortir vivant au bout parce que on sait jamais si on va s'en sortir, mais sauf si on fait vraiment confiance à sa boussole et si la boussole, c'est la langue. Si on sait où on va, si on sait dans quel coin on veut aller. C'est ça. Donc, mais c'est vrai. En plus, je veux dire, comme il n'y a pas de gloire particulière à dire que les histoires ne m'intéressent pas et que je ne les connais pas à l'avance, je le dis. J'écris pas pour raconter une histoire. Donc mais parce que je ne sais pas faire ça.
Je me souviens que. Tu te défends pas mal, quand même.
Non, ce que je ne sais pas faire, c'est m'asseoir en me disant, voilà, je vais commencer un livre, donc pendant une semaine, je vais essayer de réfléchir au genre d'histoire que je. Et là, si je pense ça, ça veut dire que je suis pas dans une période d'écriture. Je suis pas encore. Je suis un espèce de mec comme ça. Je sais pas trop ce que je veux. A priori, je suis peut-être un écrivain, donc il faut peut-être que je me mette à écrire un livre. Mais je suis pas encore un écrivain. Et donc, j'arrive pas à penser à une histoire parce que je sais pas, j'arrive pas. Mais il faut que je l'écrive. Il faut que je commence à écrire la première phrase. Et une fois que j'écris la première phrase, ça c'est trop tard. C'est-à-dire que je peux pas revenir en arrière en disant ah bah de quoi je vais parler. Non, c'est le petit miracle. On a trouvé la première phrase et on se dit est-ce que je vais trouver celle d'après qui va peut-être la mettre en valeur ou faire que moi d'un seul coup j'ai envie d'aller voir plus loin. Donc c'est petites choses comme ça qui s'ajoutent. Mais c'est comme faire un mur, hein, parce que tu sais aussi que j'ai reconstruit avec mon frère une bergerie dans les Corbières et on était deux Parisiens. Moi, j'avais jamais vu un sac de ciment de ma vie, donc on faisait n'importe quoi. On a commencé à monter un mur en pierre. Le lendemain matin, le mur était par terre parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait mettre du ciment. Enfin, on faisait n'importe quoi. On savait pas. Mais ça m'a appris la patience. Ça m'a appris un chantier. Un livre, c'est un peu un chantier quand même, parce que si dans un chantier vous laissez traîner tous vos outils n'importe comment, vous pouvez vous blesser parce que vous allez marcher dessus ou il y a le râteau qui va vous revenir en pleine figure. Donc il faut faire attention quand on a un travail manuel, le chantier, tout ça, il faut pas faire n'importe quoi. Et ça, un livre, c'est la même chose. Il faut ranger un peu ses affaires, faut être patient, se dire que dans la journée on a fait un tout petit bout et qui ressemble pas à grand chose, mais c'est solide et peut-être demain on va revenir, ça sera sec, on va continuer. Puis après il va falloir faire les arrivées d'eau, les canalisations, donc c'est toujours compliqué, c'est rigolo les canalisations, toujours calculer des pentes, tout ça. Donc le travail manuel d'un seul coup m'a appris beaucoup de choses dans la langue. Comment travailler quelque chose que je considère en plus comme un truc très 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 sensible. La langue pour moi c'est pas quelque chose dans l'air, c'est des mots qui sont, je pourrais presque la toucher quoi ça.
Bon, disons qu'il n'y a pas préméditation quand tu fais des histoires, mais je suis persuadé que tu viens de démontrer que tu as hâte de connaître la fin de l'histoire, toi aussi, et etc.
J'ai pas dit où, t'as entendu que j'ai dit que j'avais hâte de connaître la fin de l'histoire.
Enfin, t'as dit que t'étais curieux.
Oui, non, mais c'est pas la hâte d'aller vers la fin, parce que je sais jamais ce que c'est, là. Est-ce qu'il y a une fin dans les histoires? Moi, j'ai toujours du mal à finir mes livres.
Dans les livres.
Ça s'arrête pas, les histoires. Ça continue. Par exemple, Blanche-Neige, qu'est-ce qui se passe après? Ça continue. Il n'a pas voulu nous raconter, mais il se passe des choses après.
Parfois, tu les racontes, comme dans la trilogie de la Sainte-Bob, par exemple, et qu'on peut opposer à tout ce que tu viens de raconter, parce que moi, je l'ai vu, le plan du livre. Qui était d'ailleurs plutôt une carte routière qu'un plan de livre. Ouais. Et tu racontes aussi, quand tu as commencé le premier, c'est meurtrier avant criminel ou assassin avant criminel? Il n'y a pas meurtrier. Assassin et criminel et la Sainte-Bob. Mmh. Tu dis, quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça allait être un triptyque. Et puis quand même, sur ton mur, il y a une carte, la rivière au milieu, les deux livres de chaque côté. Là, il y a préméditation.
Ah non, mais ça vient après. Ça. C'est venu d'un truc très très bête, là. J'ai écrit Assassin, c'est un livre qui n'était pas très gros, parce que j'étais en retard, je suis toujours en retard quand il faut remettre mes livres, donc je ne devrais pas le dire, mais comme on n'est pas très nombreux, là, je peux quand même vous dire que des fois, je suis obligé d'aller très très vite pour finir ou pour démarrer mes livres, j'ai tellement de trucs, il me semble que j'ai toujours tellement de trucs à faire que le temps de l'écriture est toujours un peu réduit. Donc je rends un livre qui n'est pas très gros à Antoine Gallimard, qui me dit, c'était Assassin, il me dit, j'ai vraiment aimé, mais il y a juste au milieu, il y a un truc, je comprends pas bien, là. Et comme j'ai pas envie de discuter de ça avec lui, je lui dis, mais bien, c'est normal que tu comprends pas bien. Et je lui dis, c'est une trilogie. Et alors, bon, peut-être Jean-Baptiste me croit pas, mais c'est la vérité. Je savais pas que c'était une trilogie. Mais d'un seul coup, je me débarrassais du problème et je lui dis, voilà, c'est une trilogie. Attends, tu m'en parleras après quand ça sera fini. Donc je rentre chez moi et je me dis, aïe, 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 qu'est-ce que je suis allé lui raconter? Et donc, je suis obligé d'en faire un deuxième. Et là, je pars dans un truc qui n'a aucun rapport avec le premier. Parce que je dis, mais je ne peux même pas continuer l'histoire. Et c'est l'histoire du premier livre, elle est presque finie.
Tu vois qu'il y a une
fois. Donc, j'en fais une deuxième qui n'a aucun rapport. Et en fait, quand j'écris le troisième, un peu bêtement, je me dis, mais en fait, c'est une personne qui raconte comment... Il écrit le premier et le deuxième parce que chaque fois qu'il va travailler, il prend un chemin où il fait tous les gens qui habitent sur la gauche de la rue, je fais une histoire avec ces gens-là. Tous ceux qui habitent à droite, je fais une autre histoire. Et moi, je suis l'écrivain au milieu et je vous raconte comment je fais ça. Et donc, ça devient une trilogie. Mais c'est parce que c'est pas grave que ce soit une trilogie ou un truc en 5 parties ou en 6 parties ou en 1 partie. Pour moi, c'est pas un problème énorme à tel point que, et peut-être tu sais ça, mais tu pourras peut-être pour une fois m'approuver, c'est que tu sais cette histoire où je mets quelqu'un dans le coffre. C'est dans Assassin. Ma femme qui... Alors maintenant, ma femme est beaucoup plus sage et gentille. Elle ne me demande pas de lire ce que j'écris. Avant, elle voulait toujours lire, de peur que je fasse des choses qui n'étaient pas très bien faites. Et donc, j'écris Assassin, puis je lui fais lire 2 ou 3 chapitres. Et elle me dit, mais tu m'emmerdes avec tes histoires autour des piscines. Et je lui dis, oui, d'accord, mais tu veux quoi? Tu veux que je mette quelqu'un attaché dans le coffre d'une voiture? Et j'ai mis dans Assassin, juste au moment le lendemain, où quand j'ai écrit, le type mettait quelqu'un d'attaché dans son coffre. En même temps, mais c'est se dire, mais voilà, c'est l'enjeu, il n'est pas du tout dans cette histoire. On s'en fout qu'il y ait quelqu'un. C'est drôle, c'est amusant, ça, on a envie de savoir ce qui se passe. Mais quelque part, ce qui est intéressant dans un texte et dans un roman en particulier, c'est l'infratexte. C'est ce qu'il y a en dessous du texte. C'est un peu, il n'y a pas longtemps, j'ai cru comprendre, mais des fois, je comprends les choses de travers, ou je les comprends comme j'ai envie de les comprendre. J'ai cru donc comprendre qu'ils ont découvert sous l'Amazone un fleuve encore beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Et c'est ça un peu qui est intéressant, c'est qu'en fait, la vraie histoire et peut-être la vraie magie ou la vraie, je sais pas quoi, de ce fleuve, l'Amazone, il est rendu encore plus fort parce qu'il y a ce truc en dessous qu'on voit pas. De la même manière que Hemingway, quand il disait, si vous êtes bon, l'iceberg, vous décrivez le dessus, et si vous êtes bon, vous faites comprendre toute la masse de dessous. Donc c'est toujours ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'est le sous-texte? Et le sous-texte, c'est la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui fait que, à un moment, si vous avez une espèce de vision ou de prémonition de cette chose qui est en dessous, c'est la langue qui vous l'amène. Sinon, vous pouvez pas. Sinon, c'est pas visible. Sinon, oui, il y a des. J'ai remarqué, par exemple, que certains lecteurs venaient vers moi en disant j'aime ce que vous faites, mais qui sait. Et la personne, visiblement, sait pas pourquoi ou parce qu'elle a pas encore pensé que. Elle n'est pas écrivain, donc cette personne, elle se fout un peu de la langue, de l'histoire. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment un livre lui a parlé et éventuellement a pu la transformer. Donc elle vient et elle ne sait pas trop pourquoi elle a aimé. Et j'ai envie de lui dire, mais vous n'avez pas aimé ça parce qu'il y a une histoire. Dans les 37.2, il y a plein de gens qui me disent, parce qu'on sait que ça a été tout un succès incroyable et tout ça, mais et attendez, plus bête comme histoire que l'histoire de 37.2, c'est difficile, il faut se lever de bonheur quand même. C'est une histoire bête. Mais ça fonctionne parce que... Ça fonctionne parce que moi, sous mon texte, j'ai mis autre chose. Et par exemple, Benex a mis toute sa vision, tout son rapport à ce qui est... À l'esthétisme de Benex, c'est un truc très très particulier, qui n'est pas le mien. Mais chacun a amené quelque chose comme ça. Et moi, je sais que c'est la langue qui me transperce, c'est la langue qui me fait d'un seul coup avoir envie de réfléchir à une histoire. C'est parce qu'elle est là. Et pourquoi j'aime des gens comme Céline ou comme Duras, c'est parce que c'est ça. Ils ont travaillé quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel. Mais c'est ça la vraie importance. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, la littérature, ça peut être vraiment quelque chose d'important dans une société. C'est pas quelqu'un qui raconte des histoires, c'est pas ce type-là qui est important. Celui qui est important, c'est celui qui travaille la langue, parce que quelque part, il travaille sur une matière qui nous est commune à tous pour communiquer. Et on sait où la non-communication, on sait où ça mène. Donc voilà, c'est un truc important. C'est la langue qui est importante, c'est pas le reste.
Et tu me disais que tu l'avais découvert récemment, enfin relativement récemment, c'est avoir exercé ce beau métier d'écrivain pendant 15-20 livres, et au bout d'un moment seulement, tu as pris conscience que c'était la langue qui t'intéressait. Donc, l'activité qui précède cette prise de conscience, c'était quoi?
C'est l'écriture des 15 romans qui ont précédé, je sais pas, je dis peut-être pas 15, mais ça, je crois que ça a aussi un rapport avec, c'est un rapport avec l'âge. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, mais j'ai tout le temps un peu écrit comme ça, donc parce que je voyageais, que je trouvais que c'était intéressant d'écrire ce qu'on voyait, tout ça. Donc au départ, l'espèce d'énergie qu'on a quand on a 25 ans, des fois elle vous aveugle. C'est-à-dire que j'avais pas conscience que ce qui était intéressant dans l'écriture, c'était pas de raconter une histoire, justement. Donc j'ai commencé effectivement à raconter des histoires. Bleu comme l'enfer, c'est une histoire de poursuite. 37-2, c'est une histoire. Tous les autres. Puis tout doucement, ça a bougé, ça. Parce que je pense qu'il y aurait eu un moment une espèce de fatigue. Je suis même sûr que j'aurais pas consacré ma vie à écrire des histoires, à raconter des histoires.
Tous tes livres ont des histoires.
Oui, non, mais c'est moi, je les conçois plus comme oui. Ça. C'est ça le truc. Ouais.
Et tu fais le lien aussi entre le plaisir même, en tout cas l'acceptation que tu as aujourd'hui et depuis quelque temps de parler de ton travail, avec cette prise de conscience de la langue qu'avant, quand tu semblais n'être que l'auteur d'histoire, tu n'acceptais pas cette parole publique. Quel rapport il y a entre les deux ?
Je crois que c'est parce que j'arrivais pas à parler d'une histoire quand on venait me dire... Et qu'est-ce qu'ils font dans Bleu comme l'enfer? Ils se courent après. Je trouvais ça tellement bête. Je dis oui, ils se courent après, mais c'est pas pour ça que je l'écris. Mais je savais pas trop pourquoi, parce que déjà je suis pas tombé dans la littérature comme dans l'autre, dans le chaudron magique. Là, je suis venu à la littérature doucement, et je suis venu à la littérature parce que je suis tombé sur des écrivains qui d'un seul coup m'apportaient autre chose que des histoires justement, et qui m'apportait une espèce de vision de la vie que tout seul j'aurais peut-être pas pu avoir, parce que les écrivains avec leur langue, qu'est-ce qu'ils font, ils prennent ton regard comme ça, puis tout doucement ils le tordent un peu comme ils ont envie, c'est-à-dire qu'ils te proposent un axe qui est pas forcément l'axe naturel. C'est comme Ozu par exemple, qui prend sa caméra, il la met presque au ras du sol et il change l'axe, et en même temps il filme les mêmes choses, il filme pas des zombies, il filme des gens qui rentrent du marché ou des choses comme ça, mais il change l'axe. Et si vous changez l'axe, vous changez la proposition que vous faites du monde aux autres. C'est une question, et c'est ça la langue, c'est où je place, qu'est-ce que c'est le point de vue. Et c'est là où éventuellement on peut imaginer que la langue évolue. C'est pas l'histoire qui fait qu'on, c'est la langue, elle évolue parce que c'est le seul endroit, c'est la seule chose qu'on peut encore bouger. Parce que tout a été plus ou moins écrit, encore une fois. Enfin, c'est ce que je crois, moi. Tout a été plus ou moins écrit d'une manière ou d'une autre. Mais tous les axes n'ont pas encore été investis. Donc il y a plein de manières de regarder les choses. Et je sais que moi, les écrivains qui m'ont vraiment marqué, fondé même, c'est des gens qui m'ont permis de regarder les choses différemment. Et pour plaisanter, souvent je dis que c'est, par exemple, c'est Raymond Carver qui m'a appris à traverser la rue. Mais c'est pas si idiot que ça. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes, je ne sais pas quoi dire, c'est si vous êtes transporté ou si vous êtes ému, si vous êtes amoureux de la langue de Raymond Carver, si vous êtes imprégné de cette langue. Au moment de traverser la rue, vous ne le faites pas comme celui qui a été nourri, pareil, par un autre, ou qui n'a pas été nourri du tout par la langue. Donc vous regardez les choses différemment. C'est-à-dire que peut-être que vous allez regarder le ciel, ou vous allez regarder... vous n'êtes pas forcément allé regarder le flic qui fait la circulation, mais il n'y en a plus, donc on ne peut plus les voir. Mais vous ne regardez pas les mêmes choses, vous ne regardez pas le monde de la même manière, parce que quelqu'un vous a fait bouger l'axe de votre regard. Ça, c'est un truc que je ressens très très fort. Je sens que des gens ont changé ma vision. Et ça, par contre, ce que je suis sûr, c'est que c'est la langue et que c'est pas l'histoire. Raymond Carver, c'est pas quelqu'un non plus qui débat ou qui développe des idées assez incroyables. Évidemment que c'est très humain, que les histoires sont très, mais il développe pas de thème particulier. C'est dans la beauté de la langue que tout passe dans la langue quand même quelque part.
Moi, je
mais tu lu. Sais ça parce que tu écris comme
je
ça.
Je
ne
l'ai
aussi,
lu qu'en traduction, Carver, donc c'est, je sais pas, c'est un peu bizarre. Tu as parlé de 37-2, tu as parlé de Benex, tu as parlé de cette période, donc il y a longtemps, qui avait fait de toi un personnage presque en oubli. Non, c'est vrai, t'es passé très près de l'icône générationnelle il fait des fautes de français, il est plus américain que français, c'est un rocker, c'est pas un écrivain, tout ça, t'es passé très près de ça. Enfin, tu es même tombé dedans un peu. Non, mais tu es tombé dedans, mais tu en es sorti. Et aujourd'hui, on s'adresse à toi comme à un écrivain. On parle de ta langue avec toi. Du temps de 37.2, personne ne faisait ça. Est-ce qu'il... Non, c'est vrai.
Oui, non, mais je pense que c'est parce qu'on ne me posait pas les bonnes questions. C'est que vous m'avez pas, aussi, vous les critiques, vous ne m'avez pas accouché. Vous auriez pu m'accoucher. Faire comprendre que c'est... Attendez, ça vous suffit d'écrire des histoires bêtes comme celle de 37.2 ? Peut-être j'aurais dit, oui, mais il y a peut-être pas que l'histoire... Enfin, il y a peut-être autre chose. Par exemple, je me souviens que quand j'ai démarré 37.2, l'idée qui m'amusait, c'était ce type qui écrivait des carnets et qui ne les montrait pas, qui les gardait pour lui. Et cette fille arrive dans sa vie et lui dit, mais attends, tu rigoles, faut... ouvre-toi au monde, publie. Et moi, je pensais que c'était une espèce de dialogue. La littérature permet ça, le cinéma ne le permet pas. Cette idée que c'était la même personne, il y avait son côté féminin qui lui demandait de s'ouvrir, et donc en publiant, de s'ouvrir au monde, et lui qui trouvait que c'était pas la peine, son côté masculin qui était « non, c'est pas la peine, je me contente de mes petits trucs comme ça ». Donc c'était, ça m'amusait, mais personne m'a parlé de ça. On m'a tous dit « mais vous avez vu, Béatrice Dalle, quand elle rentre, qu'est-ce qu'elle est belle ?» Alors je disais « oui, elle est belle, oui ». Mais c'était pas ce que je racontais. Alors à la... Et je suis même d'ailleurs parti tout de suite aux États-Unis. C'est pour ça que je suis parti. On est passé 2 ou 3 ans aux États-Unis parce que je voulais pas vivre ce truc-là. En même temps, ce truc dont tu parles, la rocker et tout ça, c'est un drôle de truc, ça, parce que déjà ça me gênait pas trop parce que j'étais pas à Paris, donc on me parlait du rocker, tout ça, c'était pas. Mais je ne sais même pas pourquoi je te parlais de ça, du rocker, d'écrivain rock, c'est parce que...
Tu disais que d'être devenu...
Ça ne me gênait pas. Non, ça ne me gênait pas parce que, voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé à écrire, il y avait cette idée qu'il fallait qu'il y ait un écrivain qui soit l'écrivain rock. Et ça, c'était une idée qu'avaient les critiques de rock de l'époque, qui étaient en même temps des bons écrivains, mais il y avait toute la bande de manœuvres, de celui qui s'occupait d'actuel,
Bizot,
tous ces gens-là. C'était qui va avoir ce titre? Et comme ils voulaient pas se le donner entre eux, ils l'ont filé à celui qui disait rien et qui avait rien à voir avec le rock, hier moi. Et ils ont dit, voilà, c'est lui l'écrivain rock. Mais voilà, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que je revenais des États-Unis, que je portais des bottes, je sais pas pourquoi. Ou parce que j'écoutais de la musique qui était du rock, j'en sais rien. Et en même temps, c'est parce que j'alimentais aussi quelque chose que j'aurais pas dû faire. Enfin, j'aurais pas dû faire si j'avais pas voulu avoir cette image. Mais je sais que quand on m'a au début demandé ce que j'essayais de faire, j'avais répondu, moi, écoutez, si jamais j'arrivais à écrire un roman qui soit comme une chanson de Lou Reed, ça me suffirait. Et je me souviens qu'à l'époque, le critique m'avait regardé avec des yeux ronds en disant, quel imbécile ce type-là, s'il pense que on peut, une chanson peut avoir l'intensité et l'intérêt d'un roman, c'est n'importe quoi. Ben, c'est pas vrai, c'est pas n'importe quoi, parce que si vous aimez Lou Reed, mais ou un autre, parce que c'est pas forcément Lou Reed, mais bon, c'était l'exemple que je donnais, il y avait une voix et il y avait un texte en même temps. Et c'est ça, la littérature. C'est une voix avec une histoire. Enfin bon, me fais pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Mais c'est ça, quand même, quelque part. C'est une langue avec quelque chose pour s'appuyer dessus. Il y a une histoire, vaguement, oui. Mais là, je veux dire, c'est une histoire. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une histoire. Là. Donc, c'est pas compliqué.
Mais d'abord, tu as commencé par écrire des chansons.
Ouais.
Oui.
Que tu avais. Qui ne marchait pas au début, je ne savais pas qui les donnait.
Non, non, puis en plus, tu les chantais toi et tu faisais la musique. Donc d'ailleurs, Philippe a apporté sa guitare tout à l'heure. Enfin... Oui. Non, mais c'est marrant. Par exemple, tu m'as raconté que les chansons que tu écris pour Stéphane Escher, tu les écris, tu lui envoies des textes, mais dans ton fort intérieur, tu as déjà une musique que tu ne lui communiques pas.
C'est plus que dans mon fort intérieur.
Oui, tu l'ajoutes, oui. mais pas devant lui.
Non, c'est juste pour lui montrer. C'est parce que... Alors, ça, c'est encore... C'est parce qu'il est, étranger que des fois j'écris des trucs qui sont un peu compliqués ou enfin pour lui pour un étranger quand
s'il y a trop de R. Hein.
Oui, c'est des fois je sais pas, est-ce qu'au moins tu m'en sais gré, il a du mal à, donc pour lui montrer que ça fonctionne, je connais 3 accords, peut-être 4.
5.
Cinq.
Tu dis 3 accords et 2 barrés qui sont
voilà,
les accords.
Voilà, c'est ça. Je fais mal aux deux. Donc ce que je fais, c'est que les textes que je lui écris, je fais une espèce de mélodie que je lui chante pour lui dire « Regarde comment ça fonctionne. » Mais surtout, brûle ça et fais cette musique. Donc jusque-là, ça s'est passé de cette manière. Jusqu'à récemment, il a commencé à se dire, parce qu'il est un peu feignant comme garçon, à dire, bah, puisque les musiques existent, je les prends et je les arrange un peu, mais voilà. Mais l'idée, c'est non, je suis pas chanteur, je sais pas faire ce genre de choses.
Et tu dis aussi, le texte dans une chanson, c'est 15-20% de la chanson. C'est quoi le reste?
C'est combien?
15 ou 20%.
Bah, c'est la musique et c'est l'interprète, quand même. Pour écrire le plus beau texte du monde, s'il y a une mauvaise musique et si le type chante mal, ça passera pas. Mais que quand Elvis, à l'époque, chantait des trucs sur ses chaussures en daim bleu, bah, ça passait, quoi. C'est... Parce qu'il n'y avait pas que c'est un tout. Et je trouvais que Stéphane, en plus, c'était un bon mélodiste et que. Non, j'aimais bien ce garçon, donc c'était facile pour moi de lui faire des choses.
Dans L'En Dehors, qui doit être peut-être le premier livre, tout au moins si on excelle des nouvelles, où le narrateur n'est pas un écrivain, mais pas loin, puisque sa femme est écrivain, il y a cette phrase. On a commencé par une phrase de L'En Dehors, je t'en soumets une autre. Il s'adresse à sa femme, qui est écrivain. « Sais-tu pourquoi je n'aurais jamais pu être un écrivain? Eh bien, je crois que je n'aurais pas tenu la distance. T'imagines-tu garder la confiance en soi jour après jour? Je ne te parle même pas des pressions, des doutes et du découragement qui doivent être le pain quotidien. Et c'est juste de te représenter cette foi inébranlable. Veux-tu me dire ce qu'il y a de plus dur que de croire en soi-même? » Et 20 ans après... Tu crois assez en toi-même pour être cet écrivain que tu ne pouvais pas être, ton personnage en tout cas.
Je crois pas en moi. Moi, je crois de plus en plus en la littérature. Je trouve que c'est un truc incroyable, la littérature. Toutes les grandes joies dans ma vie, je m'aperçois aujourd'hui que je les ai eues à travers les textes. C'est dur de dire ça parce qu'heureusement ma femme est pas là, donc je risque pas. Mais oui, mes grands amours dans la vie, c'est venu de la langue quand même. Donc. Oui, il a raison, mais je trouve ça même émouvant. Je trouvais ça émouvant encore maintenant, mais je me pose moins la question. Mais je trouvais ça émouvant, cette idée d'avoir un type comme ça qui est tout seul devant sa table et qui croit à ce qu'il est en train de faire. Qui est un truc complètement immatériel, une histoire. Il est en train d'écrire ça, il sait pas ce que ça va donner. Mais s'il croit pas en lui, c'est foutu, quoi. S'il croit qu'il est pas là où il faut, s'il croit qu'il est pas à la bonne place, c'est là que les angoisses terribles arrivent et qu'on est bloqué et qu'on sait plus et que donc simplement se faire confiance. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses dans la vie qui vous demandent autant de. Il faut c'est une espèce d'énergie assez bizarre. En même temps,
c'est confiance.
C'est compliqué ce que tu me demandes.
Oui, mais c'est pas cette époque qui a pas écrire ça.
Bah ouais, mais c'est pas. C'était dans une autre époque, un autre. Oui, non, mais oui. Je trouve ça émouvant.
Ouais.
Ça, c'est émouvant. Là. Se faire confiance, ça m'émeut quelque part.
Bon, j'ai d'autres phrases à te soumettre, mais je crois qu'il faut qu'on garde un temps pour se parler. Ah, mais il y a un monsieur qui veut déjà intervenir, mais on peut faire ça, c'est aussi bien.
Il va falloir passer des micros, mais peut-être la dame qui. Ah ben.
Est-ce que vous saviez dès le départ qu'il y aurait 6 doggy bags ou vous pensiez qu'il y en aurait 2, 3 ou 4, non?
Non, je trouvais que. Ben, de la même manière, j'ai dit 6 parce que je trouvais que 3 c'était petit bras, 4 aussi. 6, ça commençait à représenter quelque chose, à tel point que quand j'ai proposé ça à une éditrice, elle m'a envoyé le lendemain, elle avait fait des couvertures, puis elle m'avait envoyé tout dans des tranches avec du polystyrène comme ça. Donc c'était gros. Et après, il fallait l'écrire, quoi. Mais je savais pas. Mais je disais, oui, à vue de nez, il fallait. Mais en même temps, si vous êtes un spécialiste des séries, vous verrez que mes saisons à moi correspondent pas du tout. Si jamais on les tournait demain, chaque saison correspond pas à une vraie saison. C'était comme ça, une idée de me dire, oui, il en faut 6. Voilà. Mais non, je savais pas sinon.
Et vous pensiez combien? 2 ou 3, non? Au départ.
6.
Ah, vous saviez tout de suite c'était 6?
Ah, j'ai dit tout de suite qu'il y en aurait 6, oui.
Ah,
oui.
Ok.
Bah, c'est comme la trilogie, ça. J'ai dit, oui, il y en a 3, là.
Bah, et comment tu expliques que ces scénarios, tout livrés aux producteurs de télévision, n'ont jamais été pris pour faire des films?
Parce
que si j'ai dit une connerie, c'est fait.
Non, c'est pas une connerie, mais tu as dit c'est des scénarios. Non, justement, parce que je vis dans un pays où je savais que si j'écrivais les scénarios de 6 saisons, et que ça fonctionne pas, je peux prendre le truc et le mettre directement à la poubelle. Et comme, a priori, les gens de la télé lisent pas beaucoup, si vous leur amenez pas des scénarios, il y a peu de chances pour qu'ils se disent, alors déjà, faut que je lise un livre, et en plus, en même temps, c'est pas un scénario, donc il faudra faire un scénario, et puis c'est plus cher de faire un scénario original en France que d'aller acheter. Enfin, donc c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire une série, enfin, d'écrire une série. C'est pas que c'est impossible, mais d'en faire des scénarios, c'est trop risqué, c'est pas possible, quoi.
Il y a des cinéastes qui lisent, puisque au moins 3 de tes bouquins ont été portés à l'écran. Et ça, qui était, il y avait un appel d'offres, d'une certaine manière, puisque c'était présenté comme, parallèle aux séries télévisées. Aucune télévision n'est venue te dire, on aimerait faire ça.
Tu parles des miennes ?
Oui, des tiennes, oui.
Bah si, je veux dire, Canal+, ils m'ont tellement invité au Coste que j'ai pris 3 kilos. Donc, on mange avec eux, ils discutent. Et puis au moment de faire les choses, ils vous disent « Ah, c'est exactement, c'est l'image qu'on veut donner de la chaîne, c'est exactement ça. Bon, mais si on le fait à 8h30, c'est un peu chaud, quoi, ce truc-là. Donc, on va peut-être le faire à 10h30. Enfin, mais à 10h30, on n'a plus le même budget. C'est moins cher. Alors, comment on va faire? Et après, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils m'ont mis en présence d'un groupe de scénaristes. Et moi, j'avais vu qu'aux États-Unis, les types, quand ils écrivent une série, ils se mettent tous autour d'une table. Et chacun prend un personnage. Et chacun défend un personnage. Alors, donc, il y a souvent des espèces de baillards comme ça, parce que chacun veut que son personnage avance. Et donc je leur explique ça, il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient là, plus un type qui était un peu celui qui était censé devenir un peu le chef de cette équipe là. Et donc je leur expose cette manière de travailler, ils me disent ouais, c'est génial, donc ils s'en vont et l'autre reste avec moi après, mais il me dit mais attends, c'est idiot ton truc là, on va pas partager à 7 ou 8, on va le faire tous les deux ce truc là. Puis là c'est foutu. C'est foutu parce que cette manière de penser fait que c'est foutu d'avance. Et de la même manière qu'après j'ai contacté quelques metteurs en scène que je connais et qui tout de suite m'ont demandé mais qui va tourner les autres épisodes si je tourne le premier ? J'ai dit attends, aux États-Unis justement leur force et leur intelligence c'est de travailler pour un groupe. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de dire que le premier épisode c'est machin qui l'a tourné et l'autre là. Non, c'est de trouver une espèce d'harmonie entre tous. Le faire qu'il n'y ait pas de... Mais ça, en France, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne fonctionnait pas il y a... C'est pour ça que je ne veux pas parler d'aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans, ça ne fonctionnait pas. Les gens me disaient, ben non... Et puis en même temps, c'est vrai qu'écrire une série, c'est... Enfin, écrire, pas écrire, mais tourner une série, c'est... ça coûte plus cher qu'un film. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller voir dans les pays où il y a déjà des séries qui ont été tournées et qui ont déjà eu leur public ? Ça coûte moins cher et on prend moins de risques. Donc la non-prise de risque, c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans tous ces gens qui sont censés nous donner de nourriture culturelle en ce moment.
T'es déçu ou pas ?
Pardon ?
T'es déçu par les tentatives avortées ?
Si je suis déçu ?
Oui.
Ah non, parce que moi, le livre, il est écrit, donc j'avais fait attention, j'avais bordé toute l'histoire d'avance. Non, non. Non, et puis je suis pas sûr non plus que c'était amusant d'écrire une série, mais je suis pas du tout sûr que c'était... le scénario pratiquement fait. Non, ça reste quand même des moments de monologue intérieur qui sont très 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 emmerdants à filmer. Ou alors il aurait fallu. Donc c'était à la manière de. Je vais vous faire des romans à la manière des séries, mais c'était pas une série. C'est pas une vraie série.
Vous avez une langue riche et nerveuse et novatrice. Vous semblez vous attacher progressivement très fortement à vos personnages. Par contre, vos atmosphères sont généralement très pessimistes. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que de temps en temps, il y a quelques pépites d'optimisme dans votre vie et dans votre façon d'écrire ?
Je réponds oui à toutes les questions. Oui, il y a de l'optimisme dans ma vie, bien sûr. Et oui, je pense qu'il y a une... Je pense pas que mon écriture soit sombre. Je pense... C'est difficile de parler de mon écriture, mais... Non, je trouve que même, enfin, je sais pas comment dire ça. Si je vous dis que de temps en temps je rigole tout seul ou que je suis bien dans une phrase parce que je trouve qu'elle est légère et tout ça, c'est à l'opposé de la noirceur. Mais il se trouve quand même que je vis dans un monde qui est pas très très rigolo, ni très simple, ni très là par exemple d'en haut. Alors encore une fois, pas pour rigoler, mais le père de la narratrice, le problème qu'elle a avec son père, c'est qu'il a tué 70 enfants. Et en plus, je rajoute dans un club Mickey, donc ça fait beaucoup, quoi. Mais quand je dis dans un club Mickey, j'ai l'impression de dédramatiser un petit peu. Mais les 70 qui sont morts, moi, la veille ou trois jours avant, j'ouvre ma télé, je vois qu'il y a un type qui a tué 70 personnes sur une île. Et après, le lendemain, je rouvre ma télé, et puis dans une école, il y en a un qui est rentré avec une mitrailleuse et qui a tué la... Enfin, voilà, je vis dans ce monde. Donc, je vais pas d'un seul coup dire, bah, attendez, tout va bien, c'est rose. Et là, j'arrivais des... Enfin, j'étais en Italie, là, pour parler des livres, justement, et on me disait, c'est drôle, vous, les Français, vous avez pas peur de d'écrire le monde tel qu'il est, alors que nous, en Italie, on essaie toujours de montrer que c'est pas si noir que ça. Alors, est-ce que c'est un truc aussi des écrivains français qui sont un peu sombres? Je sais pas si vous parlez de, si on pense à Houellebecq, ou même à Geoffrey, ou à Despentes, c'est pas gay quand même, leur truc. C'est difficile d'être gay dans ce monde aujourd'hui. Mais en même temps, j'essaye tout le temps de mettre, là, par exemple, je suis toujours en train d'en écrire un autre. Je sais que ce qu'on vit aujourd'hui, ça, d'un seul coup, ça infuse l'histoire que je chante. Enfin, il n'y a pas d'histoire. Ça infuse ce que je suis en train de raconter, quand même, quelque part. Ça fait partie du paysage, mais en même temps, j'imagine que vivre dans un monde dur, ça peut éventuellement vous générer des idées un peu différentes, un peu intéressantes, éviter de trop s'endormir, de trop... Donc c'est terrible, mais en même temps, pourquoi tous ces gens en ce moment, enfin tous ces gens, 90% des écrivains reviennent tout le temps sur les guerres, les machins, la guerre de 14, il y a des gens qui ont 30 ans aujourd'hui qui écrivent sur la guerre de 14. Parce que c'était quand même si c'était atroce, même si c'était abominable, ça a été des vies très... d'une densité incroyable, vous savez, c'est énorme ce qu'ont vécu des gens en 3-4 ans, dans l'horreur, mais bon, c'est comme ça, mais ça a été intense, alors que là, depuis un moment, on a l'impression que, moi je sais pas, mon fils me disait ça l'autre jour, il a 30, je sais même pas combien, il est né en 73, donc je sais pas, enfin, il a 37 ans, 38 ans, et il me disait, mais il s'est rien passé dans ma vie, c'est...
Il a 40 ans,
hein. Oui, pas loin, non, 73, bah oui, putain.
Il faudrait quand même faire quelque chose. Hein.
Aïe, 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 c'est horrible. Ben oui, non, mais c'est ça. Et il me disait, ben oui, moi, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que moi, j'arrête pas de lui raconter, parce qu'il me demande, on écrit... Alors, on écoute les mêmes choses, mais c'est pas un cas particulier. Je pense que nos générations, aujourd'hui, des gens qui ont mon âge, leurs enfants, enfin, s'ils ont un peu de goût, écoutent la même chose que leurs parents. Donc, il me dit, mais tout ça... Je lui dis, mais tu ne peux pas savoir à quel point... Quand j'avais, même pas ton âge, mais avant, quand j'avais 25 ans, ou même un peu plus tôt, comment tout changeait. La musique changeait, la littérature changeait, le cinéma changeait, tout changeait. Aujourd'hui, je trouve que, on n'est plus, justement, on parlait de la langue, je trouve qu'aujourd'hui, mon travail est un peu, soit je suis pas assez bon, soit je trouve qu'on est peut-être dans une période où il peut pas y avoir de grandes révolutions dans la langue. Céline a tout cassé, par exemple. Marguerite Duras, ça fait pas mal de trucs aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus dans une période un peut-être d'ajustement. Enfin, moi, ce que mon travail, c'est plutôt ajuster la langue à la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour moi, à un moment, la langue de Raymond Carver... Alors maintenant, j'ai du mal à parler de la langue de Raymond Carver, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes ici qui savent qu'il y avait un problème avec son éditeur qui taillait et tout ça. Mais enfin, bon, bref. La langue de Raymond Carver, je la trouvais... même trafiqué, superbe. Mais je me suis pas dit à ce moment-là, bah ça y est, c'est plus, on plie nos bagages et on s'en va. La langue, elle est là une fois pour toutes. C'est-à-dire que cette langue, la langue de Raymond Carver, elle est plus valable aujourd'hui pour raconter ce monde dans lequel on vit, pour le raconter d'une manière très très précise. C'est-à-dire que c'est un peu comme une station de radio. Si vous êtes un petit peu avant la station ou un peu après, ça crache. Donc il faut régler tout le temps. Et une fois que vous êtes sur le son pur, il faut pas partir en vacances pendant 3 ans en disant, bah, ça va, une fois pour toutes, non, ça bouge encore. Donc, il faut tout le temps essayer de l'arranger. Et moi, il y a des petites choses dans ma langue qui me, enfin, pour parler des trucs les plus bêtes, par exemple, j'ai décidé que je voulais plus commencer un bouquin en écrivant chapitre premier. Et que je ne voulais plus non plus commencer avec mon petit blanc avant chaque paragraphe. Parce que je trouvais d'une manière un peu bête que c'était une espèce de confort que je proposais aux autres, enfin aux lecteurs, et je suis pas là pour proposer du confort aux autres. Hein. La littérature, elle est pas là pour proposer une espèce de truc confortable. Donc je disais, on supprime ça, ça sert plus, donc je supprime ça, je vais supprimer la belle page, je vais supprimer... Puis tout doucement, c'est ça l'ajustement. Alors, j'emploie des trucs comme le etc., je n'emploie pas d'une manière normale. Là, je me suis dit, par exemple, la concordance des temps m'emmerde, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on s'en sert plus ou est-ce qu'on peut faire autrement, commencer un paragraphe au présent, puis mélanger les temps dedans? Si ça fonctionne et si ça... induit une harmonie ou un rythme ou quelque chose de différent un peu dans la phrase, il faut aller voir pourquoi c'est bien ou pourquoi ça fonctionne. Donc il faut tout le temps être en train de... Alors vous voyez, avec tous les problèmes que j'ai quand j'écris, l'histoire, évidemment, je ne peux pas m'en occuper. J'étais tout le temps en train de régler des trucs sur la phrase.
Mais,
ça fait rire tout le monde, c'est ça qui est bien.
Dans Vengeance, tu as même inventé un nouveau signe de ponctuation qui te débarrasse des alinéas et de la numérotation des chapitres. C'est cette espèce de doigt tendu qui était... Moi, je n'ai pas été convaincu par ça. Enfin, d'ailleurs, tu l'as abandonné.
Il faut essayer à un moment. Oui, plutôt que de faire le blanc, j'avais mis... Vous savez, c'est un signe qu'on voit de temps en temps dans la rue, ou pour vous avertir qu'il faut aller dans une direction ou regarder. C'est cette petite main, comme ça, une petite main noire qui vous montre l'endroit, là. Et je me disais, tiens, je vais commencer tous mes paragraphes avec cette petite chose. Parce que je me disais, en ce moment, je suis aussi bien on fait appel à mon attention aussi bien avec des mots qu'avec des signes. Vous êtes là, regardez là, je vois plein de signes là déjà. Je vois un truc pour sortir, dans le métro, vous avez tout le temps ça. Donc, c'était amusant à un moment de me dire, est-ce que je peux mélanger des signes comme ça visuels avec des mots, je l'ai fait une fois, j'ai fait une fois une série, je vais pas recommencer, mais tout doucement, il y a des choses qui deviennent pour moi qui vont plus bouger. Ouais, mais moi, c'est pas moi la bande dessinée. Je trouve que les types ont un talent incroyable. Là, par exemple, ces bulles dans les bandes dessinées. Quand il y a un silence, c'est génial, les bulles, parce que vous avez le type qui parle, il y a l'espèce d'arrêt où il n'y a rien dedans, et ça reprend après. Ça, c'est un truc qui est très, très difficile à rendre en littérature. Les silences, le regard, ça, c'est difficile à rendre. Donc, il y a d'autres moyens de le faire. Mais là, d'un seul coup, c'est une espèce d'évidence. Le regard au cinéma, je me dis... Ça, je peux pas faire mieux qu'un regard. Et la bulle silencieuse dans la main, je peux pas faire mieux que ça. Mais j'ai d'autres petits moyens, j'essaye.
Je sais pas si le monsieur est satisfait de ta réponse, parce que j'avais pas compris la question comme ça. Je pensais que vous, pas reprochiez, mais que vous disiez à Philippe que sa langue n'était pas en gros de la même couleur que son univers, que sa langue était claire.
Exactement.
Et que son univers
c'est
était noir.
Aussi. J'adore sa langue, elle est novatrice, elle est riche, elle est nerveuse, on s'ennuie pas, il faut relire les pages. J'ai lu un de vos romans dans un désert nubien, il y avait personne, je me suis régalé, il y avait le froid et le vent, mais c'est symbolique. Et j'ai relu Bleu d'enfer dans un désert nubien avec personne, au mois de février, et j'adorais votre langue, et elle est pas du tout démodée, et elle s'est enrichie. Et effectivement, vous avez raison, pourquoi cette richesse d'un côté et ce pessimisme de l'autre, alors que vous adorez en plus vos personnages, vous avez du mal à les faire mourir, mais ils meurent quand même, enfin...
Moi, j'arrive pas à voir
Je suis lecteur, pourquoi hein, je suis pas écrivain.
Oui, non, pourquoi les choses peuvent pas fonctionner en même temps? On a une espèce d'univers noir et une langue qui serait éventuellement énergique, lumineuse, ou je sais pas quoi. Au contraire, je trouve que c'est... Vaut mieux se servir d'une langue lumineuse pour parler d'un monde noir que si vous êtes
Je me suis mal exprimé. Vous avez une vitalité extraordinaire dans votre langue et vous avez un pessimisme ambiant dans vos atmosphères. Alors c'est tout. C'est une impression de lecteur, mais j'adore. Hein.
Vous l'expliquez, je sais pas trop.
Je suis pas capable de l'expliquer. C'est un ressenti que j'aime beaucoup.
Mais je suis pas non plus quelqu'un de... Enfin, je suis peut-être un peu sombre et un peu pessimiste, mais... Pas 24 heures sur 24. C'est-à-dire, je trouve, la vie, elle est, enfin, j'adore la vie en même temps. Donc, mais c'est noir, c'est sombre et je sais pas, pourquoi est-ce que je suis attiré par ça? En ce moment, j'essaie d'écrire une comédie, j'ai du mal. Mais il y a cette envie en même temps. Donc, mais je sais pas, je dois être comme ça, oui, je dois avoir le sourire facile et en même temps être au fond de moi plus, je sais pas. Mais je suis pas complètement, Je suis pas d'un pessimisme total. Les livres pourraient se terminer d'une manière beaucoup plus... Il y a des livres qui se terminent très très mal, mais là, par exemple, le dernier que j'ai fait, le haut final, c'était pour moi une espèce de reprise de respiration. C'était surtout que j'avais pas mal embêté les éditions Gallimard, parce que quand j'avais voulu ces guillemets qui étaient les guillemets à l'anglaise, c'était parce que je trouvais que, alors déjà, c'était le O qui était prononcé par une femme à la fin, et je voulais quelque chose d'aérien et quelque chose en même temps de c'était pas un O avec un point d'exclamation, c'était pas un O avec un point d'interrogation, c'était un O avec des points de suspension. Donc c'était un O qui était dans l'attente de quelque chose. Donc dans mon esprit, c'est très c'est tout sauf sombre. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est une petite lueur quand même. Mais enfin, aujourd'hui, c'est assez compliqué de se contenter d'autre chose qu'une petite lueur, je trouve. Mais bon, soyons pas trop sombres.
Et tu as accepté qu'ils mettent deux majuscules sur la couverture et une majuscule, une minuscule sur la quatrième?
Non, je me suis tellement battu pour avoir ces guillemets, oui, parce que j'étais en train de vous dire que au départ, ils avaient donc fait les guillemets, vous savez, à la française, comme ça, là, avec des chevrons, comme des chevrons. Là. Et je disais, machin, je trouvais que ça écrasait ça. Et quand je leur ai dit que je voulais ces guillemets-là, ils m'ont dit, ils se sont regardés déjà, en me disant, mais il y a un problème. Je dis, mais c'est quoi le problème? Et il m'a dit, mais parce que dans la blanche, normalement, il y a une typo, il y a une police. Donc on change pas la police de la blanche. Voire sinon, il faut faire une dérogation, il faut aller voir Antoine et lui demander s'il accepterait. Maintenant qu'il a accepté. Mais c'était un peu compliqué. Donc j'ai pas fait attention. Ah bah oui. Ah oui.
Comprenez que ces éditeurs le laissent tranquille. Déjà, la premier signe de ponctuation sur la couverture, c'est un drame. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser à Philippe Géant?
Oui, je voulais vous demander si est-ce que vous pensez que c'est le style qui, pour chaque écrivain, travaille la langue et fait que ça devient pour lui...
J'ai entendu que la moitié de votre... Est-ce que c'est le style?
Le style qui, pour chaque écrivain, travaille la langue et fait qu'il a sa propre langue, sa propre manière de... Si vous voulez, cette énergie dont vous parliez tout à l'heure, qui s'impose... Quelque chose qui s'impose et qui peut-être dégomme un petit peu ce qui, dans la langue, résiste à écrire ses pensées. Ce qui
vient. Je ne sais pas si je comprends très très bien votre question, oui. Mais je sais par exemple que vous n'allez jamais rencontrer un écrivain qui vous dira « j'ai pas de style ». Ils ont tous un style, c'est même une manière tellement... c'est convenu, évidemment, ils n'ont pas de style, ils ont... Je vais être méchant, donc j'ai encore trouvé que je suis noir. Et que... Non, mais c'est tellement rare, une langue. Attendez, mais je voudrais en même temps qu'on ne parle pas de mes livres, mais qu'on parle un peu de la littérature en général. Et c'est tellement rare de trouver un écrivain qui a une langue. Il y en a 4-5. Même pas moi, mais...
Il y a un style, peut-être, par siècle.
Oui, peut-être, oui. Bah, tout à l'heure, je vous disais, oui, il y a Céline, après je suis passé à Duras directement, donc... Proust, Céline.
Voilà. Oui.
Moi, je trouve que Duras, quand même, il a fait des trucs pas mal, moi, je trouve. Hein.
Mais je suis surpris parce que ce que vous avez dit, c'est que vous parlez de la langue sans l'histoire. Et ce qui est très drôle, c'est que plusieurs fois, l'histoire vous vient et vous avez du mal à l'extraire. Sans histoire, il n'y a pas de littérature.
Oui, bien
sans
sûr.
Sans histoire, il n'y a pas de langue. Mmh.
Bah, c'est un peu comme oui. Si on peut imaginer que le style c'est la mélodie, si vous n'avez pas le texte, vous n'avez pas de chanson, ça c'est sûr. Mais moi j'ai toujours pensé que c'était l'inverse.
Bien sûr, vous plusieurs fois, mais vous avez plusieurs fois sur l'histoire, vous avez du mal à sortir. Alors que la langue, on dirait que vous réfugiez sur la langue. Mais sans histoire, il ne peut pas y avoir de langue.
Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas des non-histoires. Ça pourrait être ce qu'on vit là. C'est évidemment que je pourrais vous le raconter. Je pourrais faire un livre là avec ça. Mais c'est pas des histoires qui sont. Mais en même temps, moi, ce que je crois. Alors, je suis pas sûr. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le style qui induit l'histoire. C'est-à-dire que c'est le style qui est avant. C'est le style qui fait que la première phrase va déclencher tout mon roman. Parce que dans la première phrase que j'écris pour commencer un livre, j'ai l'impression qu'il y a tout dedans. Mais c'était Raymond Carver qui disait ça, qui avait ou Brotigan, je ne sais plus. Il y avait deux qui disaient que on peut prendre le monde et le mettre dans une phrase. Alors évidemment que c'est pas possible. Mais oui, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends que d'un seul coup, on peut dans une phrase trouver le. C'est comme une matrice de quelque chose un peu. C'est ce style-là qui fait que d'un seul coup, pourquoi je ne me retrouve pas dans mes bouquins en train de parler dans la tête d'un type qui est dans les tranchées pendant la guerre de 14? Parce que le style, la langue, la coloration même de la première phrase m'empêche d'aller vers un endroit qu'a priori j'ai même pas envie d'aller voir, mais ça ne va pas vers ça. Ça va, la langue que j'essaye de mettre au point quand j'écris une phrase va vers ce genre d'histoire, qui n'est pas important, mais elle va vers une histoire de relation homme-femme, famille, tout ça. Ça ne va pas vers un truc... enfin, là, je... mais enfin, un peu, c'est quand même un peu ça. Je pense que d'abord, il y a le style. Et après, l'histoire. L'histoire, elle n'a pas... J'arrive pas à comprendre pourquoi on peut trouver un moment que... Ah, sans l'histoire, on est perdu. C'est ça, je ne comprends pas. Je me souviens, par exemple, quand j'ai lu Nabokov la première fois, quand j'étais plus jeune, j'étais tellement subjugué par la beauté de la langue que il fallait que j'arrête parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je trouvais ça tellement beau, je lisais une page, deux pages, trois pages, de quoi il me parle? Je revenais en arrière pour comprendre le sens. Donc, pour moi, le sens, c'est l'histoire, c'est pareil, c'est la même chose. Et la mélodie, elle n'est pas là, elle est avant, elle est avant tout. C'est elle qui démarre, qui fait que tout démarre. Et tout bêtement, moi, ce qui me donne envie d'écrire un livre, c'est simplement parce que je vais travailler une langue. Bien ou pas bien, le problème n'est pas là. Mais certainement pas parce que je vais raconter une histoire. Si je pouvais m'en débarrasser, je le ferais. Sauf que si j'écris un livre sans histoire, et on voit, il y a certains bouquins qui sont écrits comme ça, moi j'ai besoin que ce soit mon métier. J'ai besoin d'en vivre et j'ai besoin de vendre des livres. Si j'écris un bouquin sans histoire, tout ça, je vais en vendre 50 ou 100, je ne pourrais pas en faire mon métier, je n'aurais pas pu nourrir ma famille et j'aurais fait autre chose. Donc quelque part, ce n'est pas l'histoire. Mais je ne sais pas si je suis très clair.
Ce qu'on comprend, c'est que tu écris des histoires, c'est une concession au commerce.
Et bien sûr, c'est ça l'entertainment. Non, mais moi, je n'ai pas peur de faire du... C'est mon métier, attendez. Mais je préfère écrire des histoires et vendre des histoires que de vendre des canons ou de vendre des subprimes ou des choses comme ça. Moi, j'écris des histoires. C'est Léo Ferré, parce que je suis un enfant de Léo Ferré. Moi, j'ai écouté ça, j'étais fou de Léo Ferré, j'écoutais ça des après-midi entiers, couché sur mon tapis. Et je me souviens qu'il disait, mais moi, j'ai pas de honte à gagner de l'argent parce que je le gagne pas en... Je sais plus ce qu'il parlait des ouvriers de Citroën, tout ça. Je gagne pas mon argent en baisant ces gens-là. Et ça, je trouve que le truc de l'écrivain, voilà, je fais de mal à personne, a priori. Peut-être que je fais du bien, mais on sait jamais. Mais du mal, non, je crois pas, non.
Alors, j'ai une question toute simple, en fait, peut-être un peu naïve, je voulais savoir. Ah, elle est à courte, a priori. Est-ce que vous voyez les lettres en couleur? Ou de manière plus générale, est-ce que vous croisez les sens? C'est-à-dire, est-ce que vous associez un son, une image ou ce genre de choses?
Attendez, alors là, j'ai rien compris.
Ah. Alors, je recommence.
Rien, mais pas un mot, là. Non, j'en ai entendu la moitié, je suis sourd en même temps.
Excusez-moi. Hein. Si je vous demande de penser à la lettre A, est-ce que vous la voyez avec une couleur particulière?
Ce que j'avais cru comprendre.
Alors c'est pas grave. C'est une question un peu.
Non, je vois pas de couleur avec la lettre.
Naïve.
Non.
Voilà.
Question simple, question réponse simple.
Bonjour. Moi, je suis arrivée en France en 83 et j'ai étudié l'anglais et j'adorais les Américains. Je lisais que Brotigan, Carver, Irving. Alors, je suis arrivée à aimer vos livres grâce à Irving. Comme j'aimais Irving, vous êtes le premier écrivain français sur lequel je me retrouvais dans cet univers que je m'étais créé. Donc, ma question est, vous avez un rapport personnel avec Irving?
Si j'ai un rapport personnel avec?
Avec Irving, John Irving.
Ah, John Irving.
Mm-hmm.
Non, pas spécialement. Je me souviens que j'avais vraiment aimé le premier. Je me souviens plus que c'était le premier que j'avais lu. Après, je trouve qu'il y a des écrivains plus... Enfin, moi, personnellement, il y a des écrivains qui m'intéressent plus.
Ah bah, bien sûr que moi que aussi, John j'ai évolué, je lis...
Non, j'aimais bien, il y a plein de choses, mais... à un moment, j'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs, mais les écrivains qui ont du souffle, Il y a des gens qui ont dit « Ah, mais oui, John Irving, il écrit des gros livres. » Moi, quand je disais ça, je pensais plutôt à Henry Miller ou des gens comme ça. Le souffle, c'était ça pour moi. Mais en même temps, j'ai une espèce d'admiration pour les gros livres. Les gros livres de 500, 600 pages, ça m'a toujours un peu impressionné. Ouais.
Non, mais chez Irving, il y a, dans un roman, il y a 5, 6, 10 romans. Il y a tellement d'histoires.
Oui, mais il y a plein d'histoires chez Irving. Donc
exactement.
Moi, à la fin, ça me fatigue un peu.
Il y a au moins 2 personnages qui sont écrivains. Si ce n'est pas 3 ou 4 qui sont écrivains, et chacun écrit et tout se mêle. Et ce n'est pas les histoires chez vous, c'est la langue, comme vous disiez, qui est travaillée d'une façon... très sensible, et moi je trouve des similarités avec le travail des écrivains anglais, surtout américains, disons. Parce qu'il y a une sorte de respect pour la langue, un respect pour le lecteur aussi. Et comme vous parliez de Nabokov tout à l'heure, chez Nabokov, c'est formidable. C'est vraiment... On reste bouche bée devant ce jeu avec une langue qui n'était pas la sienne, si on pense qu'il était russe. Mais en même temps, on voit toutes ces lectures, comme chez vous d'ailleurs. C'est ça que je voulais savoir. Vous avez beaucoup lu les Américains ?
J'ai lu plus les Américains que certains Français ou certains...
Alors, c'est comme moi.
Oui, comme je suis un lecteur normal, je suis pas. Oui, mais en même temps, parce que c'était des gens qui m'apportaient autre chose que simplement une espèce d'émotion esthétique. C'était des gens qui me parlaient de la vie, des orientations qu'on pouvait donner à sa vie, toute cette période de la Beat Generation. C'était des gens qui n'étaient pas simplement en train de vous dire, je vous écris une histoire, qui vous donnait. Cette idée de par rapport à la liberté, par rapport au voyage, par rapport à la poésie, par rapport aux civilisations asiatiques, tout ça, c'était des gens qui vous nourrissaient d'une manière incroyable. C'était enfin moi je sais pas tous ces gens-là ils m'ont nourri. Et alors qu'à l'époque moi j'avais, je sais pas, des gens que j'aime beaucoup aujourd'hui, par exemple comme Modiano ou Leclésio, quand j'avais 20 ans, ça m'intéressait pas quoi.
Ah, je suis arrivée à eux après.
Oui, après, mais c'est sûr que lire des choses comme le Pédigré, maintenant, je trouve ça génial, incroyable, super beau. Mais je comprends pourquoi ça ne m'intéressait pas quand j'avais 20 ans. Voilà. Bah, bon, il n'avait pas encore écrit le Pédigré quand j'avais 20 ans, mais ce genre de... C'était pas... J'attendais plus que ça, que ce que les écrivains français me donnaient. Et en même temps, c'est... Tout à l'heure, on parlait de la beauté incroyable de Nabokov, par exemple, ou de Proust, ou de ces gens-là. Quelle absurdité aujourd'hui de voir tous ces écrivains qui essayent d'écrire comme eux.
Ah non.
Qui essayent d'écrire comme Proust, qui essayent d'écrire comme Nabokov. C'est absurde. Si vous les aimez vraiment, ces écrivains-là, vous faites ce qu'ils ont fait quand eux ont écrit. C'est-à-dire que vous essayez d'être nouveau, d'être moderne, d'apporter quelque chose à travers la langue. Donc surtout ne pas écrire comme des gens qui sont aujourd'hui des statues incroyables. Absolument. Surtout ne pas écrire comme Proust, surtout ne pas écrire comme Nabokov.
On peut pas.
Mais voir qu'est-ce que cette période en ce moment, qu'est-ce qu'elle produit. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à trouver là-dedans ?
Pour chercher. Kundera, Milan Kundera.
Je lis pas trop Milan Kundera. J'ai lu la légèreté, mais bon, sinon non, c'est pas. Bah, c'est un superbe écrivain, mais c'est pas ce que je cherche en littérature.
Bien.
Et c'est aussi, quand je dis ça, ça veut dire que ne perdons pas de vue que tous les ans, en France, il y a 650 livres qui sortent. On est obligé de faire un peu une espèce de tri et... C'est terrible.
Beaucoup plus. Il en sort 650 à la rentrée, mais dans l'année...
Ah oui, je parle de la rentrée, moi. Ouais. Donc on passe forcément à côté de pans entiers de littérature.
On a le temps de prendre une dernière question.
Ouais,
à vous, monsieur.
Ouais, donc bonsoir. Juste une petite question. Je rebondis par rapport à ce que vous avez dit là, il y a quelques minutes, par rapport au fait qu'il ne faut pas copier les écrivains qui sont déjà des statues, etc. Mais est-ce que quand vous avez commencé à écrire, vous n'avez pas imité un écrivain de votre goût ou... Est-ce que ça, parce que c'est vrai que je pense aux peintres ou à des Est-ce qu'on n'imite pas les maîtres quand on commence?
On ne peut pas arriver comme ça. Sans... On est forcément que la somme de tout ce qui vous a bouleversé, chamboulé, tout ça. Et on essaye d'être... Mais a priori, on évacue ça dans le premier. Bien sûr que des gens comme Selby, Bukowski, Kerouac... Mais ça allait plus loin. Je veux dire, même Melville, tout ça, c'est des gens... J'adorais ça. C'est... On essaye un peu de tout ramener, de dire, vous voyez, voilà ce que j'ai aimé. Et après, une fois qu'on a évacué ça, ça va mieux, mais... oui, je pense pas qu'on puisse faire autrement, de toute façon.
Parce que moi, c'était par rapport au mimétisme. Est-ce que vous avez pas ressenti...
Par rapport au quoi ?
Au mimétisme. Est-ce que vous avez pas ressenti, par exemple, quand vous avez commencé à écrire, que vous faisiez comme d'autres personnes ? Et si oui, comment vous avez fait pour vous en sortir et pour pouvoir trouver votre...
Bah déjà, à mon avis, je m'en suis pas sorti. Mais est-ce que j'ai essayé ? Ouais. Parlons plutôt d'une famille d'écrivains. J'écrivais pas comme j'adore Céline, j'ai jamais essayé d'écrire comme Céline ou je sais pas, même Bukowski, c'était pas ça. J'aimais vraiment j'aimais sa poésie, donc j'ai... Non, mais tous ces gens qui m'ont... Non, je crois que Hemingway, j'ai adoré Hemingway, enfin j'adore toujours. J'aimais Hemingway, Faulkner, quand je propose un livre de Faulkner à des gens qui ont jamais lu Faulkner, j'ai tellement peur de pas leur donner celui qui va les accrocher. Que je me dis, mais j'ai une responsabilité incroyable, c'est que je vais les faire passer à côté d'un truc incroyable. Moi, quand j'ai lu Le bruit et la fureur, ou Tandis que j'agonise et tout ça, des fois, on a presque du mal à respirer. C'est un truc, c'est énorme. Donc, évidemment, que je n'écris pas comme Faulkner, mais quelque part, tout à l'heure, on parlait d'un univers sombre ou tout ça. Peut-être ça vient aussi, toutes ces choses nourrissent tout doucement. Tous ces gens dont on parle n'ont pas non plus un univers très gai, là. Donc oui, ça participe de ça, mais je crois qu'à un moment, si vraiment vous aimez la langue, si vous aimez ce que vous êtes en train de faire et en train d'écrire, forcément, vous n'allez plus devenir un copieur. Et le problème énorme qu'il y a en France, c'est qu'il y a, à mon avis, à peu près 90% des écrivains qui ont du talent. Sauf que le talent, ça n'a jamais fait un écrivain, jamais. Et en France, c'est ça le problème. C'est qu'on a plein de gens, il y a des piles de bouquins dans les librairies, de trucs qui sont... C'est talentueux, c'est... je sais pas, il y a des gens qui font des listes de ce qu'ils ont aimé, d'autres, ils ouvrent des bocaux, ils trouvent ça sombre. Enfin, je sais pas, c'est... Alors, c'est bien fait, c'est talentueux, mais on n'en a rien à foutre. C'est ça, le truc. On s'en fout.
Vous avez prononcé le mot de poésie tout à l'heure. Et j'aimerais vous lire trois lignes d'un poète japonais qui s'appelait Kikaku, qui était disciple de Basho. Alors, une libellule rouge, ôtez-lui les ailes, un piment. Alors, correction de Basho, parce que voilà, le maître donnait des conseils à ses élèves. Et voilà ce qu'il dit, Basho. Un piment rouge, mettez-lui des ailes, une libellule. C'est pas mal, hein?
Très, très. Alors,
une toute petite question. Je n'ai encore rien lu de vous et j'aimerais que vous me conseilliez un de vos livres.
Non, je ne sais pas quoi vous conseiller. A priori, j'ai toujours l'impression que le dernier est le meilleur, évidemment. Sinon, à quoi ça sert de continuer ? Oui, mais enfin bon, je ne sais pas si c'est...
C'est mieux.
Il n'y a pas de... Oui, Lou, je ne sais pas.
Donc, on conclut cette affaire sur la libellule et le piment. Allez-y, monsieur.
Est-ce que... Oui, une question très, très rapide. Vous avez fait référence deux ou trois fois à Welbeck. Pensez-vous que cet auteur fasse partie de ceux qui nourrissent la langue et qui vont avancer la littérature actuellement ?
Moi, mon goût personnel, je trouvais que les premiers livres de Michel Welbeck étaient meilleurs que les derniers. En même temps, c'est quelqu'un qui a pensé son époque. Donc c'est intéressant. Je pense que vous pouvez complètement mettre de côté la langue et trouver qu'il y a quand même un intérêt incroyable dans les histoires qu'il raconte. Moi, le problème que j'ai, c'est que si vous enlevez la langue, il n'y a plus rien. Moi, c'est ça le problème. Mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les romanciers, c'est un truc, c'est pas un philosophe, c'est pas un sociologue, c'est pas un historien, c'est pas un médecin. C'est simplement quelqu'un qui doit tout faire tenir par un truc dont on a du mal à parler depuis tout à l'heure, qui est la langue. Si vous avez des choses et des idées à défendre, ça, tout le monde va être content parce que quelque part, si vous donnez du grain à moudre aux gens qui écrivent sur vos livres, peuvent très très vite évacuer votre langue. J'entends plus très beaucoup dire dans les derniers livres de Michel Houellebecq que le style est comme ci ou le style est comme ça. On n'en parle plus de ça. On parle de sa vision, intéressante. Le problème n'est pas là. C'est d'un seul coup, il y a une espèce de basculement vers